إكسبريسو.
عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم مثلا مصين هوني مباشر من مدينة الثقافة بتونس. الآن حضر معنا كما قلنا سعادة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس سون إكسلانس ماركوس كورنارو. بونجور، ميرسي دكسبتي نوتر انفيتاسيون سماتا.
بونجور أبو، سي رافي داتر افيك فو اون فوا دو بلوس. بارفيت.
Justement, nous sommes là à l'occasion de la journée de l'Europe, qui est un symbole de la paix. Le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Et c'est une journée, mais là, ça va être plusieurs journées. Ça va être les journées de l'Europe. D'ailleurs, demain aussi, il y a un expresso spécial en direct ici. On va parler d'autres sujets, de tourisme, de culture. On va parler chiffres. On va parler avec l'autorité d'investissement, la TIA, sur les chiffres de l'investissement. Tout à l'heure, on a parlé d'industrie. On a parlé d'industrie automobile. On a parlé d'agroalimentaire, d'agriculture. On a parlé d'IT, de technologie. Et il y a peut-être quelques remarques sur lesquelles on va essayer de revenir. Mais déjà, quel est votre message aux Tunisiens à l'occasion de cette journée qui est un symbole de la paix?
Voilà, déjà.
Surtout dans le contexte actuel. Dans le micro, s'il vous plaît.
Très bien. En tout cas, bienvenue à la fête de l'Europe à tous les écouteurs ici de la radio. Merci, Barbet. 9 mai, évidemment, l'Europe est connue pour avoir construit, après la guerre mondiale, une construction de paix dans le monde. Ça nous a aussi permis d'agir comme Union européenne avec un partenariat très très fort avec des pays comme la Tunisie, et notamment la Tunisie. Mais cette année aussi, c'est particulier pour deux raisons. Déjà, c'est la première grande fête que je puisse faire après la crise Covid qui nous a touchés tous. Donc l'année dernière, on n'en avait pas, on fait ça d'une manière réduite. Mais deuxièmement aussi, la manière dont la guerre est revenue en Europe avec l'agression militaire des Russes contre l'Ukraine. Je pense ce message d'espoir et de maintenir à tout prix une vision de paix, pas seulement pour l'Union européenne, mais aussi pour l'humanité plus large, et malheureusement encore plus d'actualité que j'aurais encore pensé. Mais en tout cas, je pense un bon message, et je suis quand même très fier d'être ambassadeur d'une structure qui est quand même porteur d'espoir pour un monde plus juste, mais aussi d'espoir, et je pense pour revenir, notamment aussi sur la jeunesse des deux rives de la Méditerranée.
Justement, aujourd'hui, cette relation Tunisie-Union européenne, est-ce qu'elle est à la hauteur des attentes des deux parties, de ce qu'attendent les Tunisiens, de ce qu'attendent les Européens de cette relation, et peut-être l'engagement de ce que vous appelez, on a eu un entretien précédent, et vous parlez souvent, et même je vous vois dans d'autres événements, de Team Europe aujourd'hui, d'arriver ensemble, unis, justement en partenariat avec des pays comme la Tunisie.
Tout à fait, mais donner un bon exemple sur le Team Europe, qui effectivement est l'idée que l'Union européenne fédère ses propres moyens, mais aussi avec les moyens des 27 pays membres, au moins ceux pays membres qui sont, comme ici, présents en Tunisie. Et si je prends l'exemple de la Covid, de la crise Covid, de notre soutien à la Tunisie, c'est quand même à travers cette approche Team Europe qu'on a pu financer plus qu'un tiers de tous les vaccins qui était administré ici en Tunisie, donc comme participation de l'Union européenne, mais aussi à travers le Team Europe, on a quand même, avec beaucoup de collègues pays membres, étalé aussi notre présence dans les municipalités, dans les territoires un peu plus lointains, avec du soutien supplémentaire, soit pour des petites entreprises, des petites sociétés et autres.
Pour revenir moi-même au partenariat Tunisie-Union européenne, il y a eu la visite, il y a eu plusieurs visites, mais surtout la visite du commissaire européen à l'élargissement et à la politique du voisinage. Il y a eu des annonces. Est-ce que ça commence à se concrétiser? Qu'est-ce qu'il y a à retenir sur ces annonces-là? Qu'est-ce qui est déjà en train d'être fait?
Bon, vous parlez de la visite du commissaire Varelli. En fait, il a fait trois grandes annonces avec un grand message principal. Le message principal est pour confirmer jusqu'à quel point l'Union européenne restera et reste à côté de la Tunisie sur les mains de chapitre de sa transition démocratique, de ses espoirs et potentiels économiques, société civile et autres. Il a laissé un grand chiffre de 4 milliards avec les médias. Et ça, c'est le chiffre qui est le potentiel de financement européen pour la vision du gouvernement tunisien pour les années à venir. Donc ça, c'est un chiffre qui couvre de cette année vers 2027. Donc c'est un cadre pluriannuel pour encourager et pour témoigner que sur le numérique, sur la transition verte, les investissements encore disponibles, les changements socio-économiques. Là, il y a vraiment des financements concrets disponibles de l'Union européenne. Deuxièmement, il a aussi confirmé qu'on avance aussi sur des décaissements d'urgence dans cette année. Et je pense que dans quelques semaines, vous pouvez me inviter de nouveau pour en parler un peu plus. Donc là aussi, ça va démontrer que l'Union européenne...
Il y aura un décaissement d'ici quelques semaines ?
Bon, invitez-moi dans quelques semaines pour être un peu plus précis. Troisièmement, il a aussi fait un exemple d'un chiffre un peu plus petit, mais aussi très parlant, du fait qu'on, en plus de tous les montants déjà en cours, il y a encore 20 millions d'euros de plus pour la Tunisie pour faire face à la crise alimentaire et le coût de blé face à la crise ukrainienne qui touche malheureusement aussi la refonte de la Tunisie. Donc ça finalement a été le grand message de commissaire Varelli. On avait aussi une très bonne visite de nos parlementaires européens. Ils sont plutôt venus avec le prisme du Parlement, évidemment, engagés aussi sur la transition démocratique, aussi avec des bons messages d'engagement, mais aussi de soutien et d'encouragement laissés.
Alors justement, en parlant de cette visite, en parlant d'engagement économique, en parlant de financement, quelle est la position aujourd'hui, l'appui, en tout cas, de l'Union européenne dans les négociations Tunisie-FMI ?
Bon, je tiens mes doigts que ça aboutit. Effectivement, j'encourage du président, du gouvernement et de la société de prendre ça au sérieux comme effectivement la meilleure voie de sortie d'une crise financière socio-économique qui s'aggrave. Et pour moi, c'est vraiment une proposition tuniso-tunisienne que je vois sortir. Moi, je suis assez impressionné de la réflexion de ce que je vois du gouvernement soumis à la négociation avec le FMI. Et pour expliquer un peu le dynamique entre ces deux structures, donc c'est des propositions, des idées de réformes économiques, socio-économiques, investissements que le gouvernement met en place. Et c'est le FMI avec sa méthodologie, assez sévère mais quand même bien testée dans la durée, qui fait le calcul, est-ce que oui ou non, l'ensemble de ces mesures pourrait aboutir à une soutenabilité de la dette tunisienne à long terme. Donc il y a, pour répéter, il y a des propositions qui sont vraiment tuniso-tunisiennes, ça je peux confirmer, et puis il y a le FMI qui regarde est-ce que dans l'ensemble tout cela peut aboutir à un calcul macroéconomique, macrofinancier dans les années à venir qui diminueront l'élément de la dette interne et externe des dépenses publiques par rapport au stade actuel qui malheureusement ne sera pas soutenable dans cette forme-là.
Donc en tout cas, il y a un appui européen. Est-ce qu'on comprend qu'il y a un appui européen de par les annonces récentes et de par ce que vous dites
Bon, tout à fait. Donc on est à côté de... Bon, on est un bailleur de fonds principal, mais aussi on est à côté des Tunisiens pour encourager, pour expliquer, pour rester engagé sur certaines formes. Si on a une voix dans l'ensemble, je pense qu'on est parmi ceux qui veulent aussi assurer que ce n'est pas uniquement l'économie qui prime le social. Donc comme Union européenne, on est très sensible que chaque réforme doit quand même aboutir aussi réellement dans une diminution du clivage qui pourrait être soit entre des différentes couches de la société ou même territorialement. Et je dois dire aussi que pas mal d'expériences que certains pays membres récemment ont dû faire de passer d'une transition ex-communiste à une transition avec un social market economy modèle peut aussi servir d'exemple quand même avec des réformes assez profondes, on peut assez rapidement arriver quand même à une refonte socio-économique.
Et pour finir, marché social.
Oui. Mm-hmm. Bon, et juste pour finir, et là j'en suis entièrement convaincu que si je regarde le potentiel d'un pays comme la Tunisie, déjà avec sa jeunesse, les talents, la formation, mais aussi en termes de positionnement géographique si proche à l'Europe, un territoire qui quand même permet d'avoir des ressources de différents niveaux. Donc c'est pas trop difficile de s'imaginer que cette population peut assez facilement s'en sortir eux-mêmes. Et je suis content si on peut, comme Union européenne, évidemment, donner un soutien, un encouragement et de rester à côté de ce processus.
Et ça me permet de rebondir, vous me tendez une perche et je ne vais pas m'en priver. Alors justement, depuis ce matin, nos différents intervenants, qu'ils soient dans le secteur agricole, dans le secteur agroalimentaire, dans l'industrie, automobile, dans l'industrie IT, des technologies, des services, ils avaient toutes et tous un point en commun, c'est qu'ils ont parlé de cette crise. Également des opportunités. Ils voyaient cette crise comme une opportunité pour le site Tunisie. Alors vous, côté Union européenne, comment vous voyez cette crise? Est-ce que c'est une menace pour les investissements directs européens en Tunisie ou au contraire c'est une opportunité pour la Tunisie? C'est-à-dire il va y avoir beaucoup de relocalisation. On sait que l'Union européenne, différents pays de l'Union européenne parlent énormément de rapatrier des investissements en Europe. Aujourd'hui, la Tunisie, c'est peut-être pas l'Europe, mais il y a une vraie politique de voisinage, il y a une proximité. Est-ce que la Tunisie est concernée par cette stratégie de relocalisation?
Merci pour cette question, parce que je confirme aussi que c'est vraiment une opportunité que je vois, donc la relocalisation des pays plus lointains vers l'Union européenne couvre évidemment aussi un pays comme la Tunisie, comme partenaire, comme pays voisin. Et dans des multiples secteurs, c'est évident. Il y a une offre dans le secteur du énergétique, évidemment, et notamment une énergie plus soutenable. Il y a tout le numérique, il y a la connectivité dans le domaine de l'agriculture, agro-industriel, le pharmaceutique, tous des secteurs où soit déjà des investisseurs présents de l'Union européenne ici voient des opportunités pour faire plus, en anglais on dit le near-shoring, et aussi des autres investisseurs, notamment je reviens sur l'aspect de tout ce qui est transition énergétique qui s'aggrave évidemment en termes de recherche d'alternatives vu la guerre russe contre l'Ukraine. Et là j'espère bien que la Tunisie ne tarde pas de se bien positionner parce qu'ils sont privilégiés en termes de partenariat, ils sont privilégiés en termes de positionnement géographique, mais ils ne sont pas les seuls de pouvoir aussi faire une offre. Donc là aussi j'encourage et j'ai un bon écho dans les idées du gouvernement et beaucoup d'acteurs aussi du secteur privé, je pense, qui essayent de se mettre là en place. Donc tout à fait une opportunité, une opportunité à ne pas rater peut-être.
À ne pas rater justement, mais ça dépend un petit peu de nous aussi. Alors justement, en lien avec ça, il y a l'adhésion de la Tunisie à la SLECAF. Et quelle est l'importance de l'Union européenne d'avoir un partenaire comme la Tunisie dans la SLECAF, surtout avec les mesures méditerranéennes, ce rapprochement méditerranéen donc, qu'on partage avec la rive, la partie sud de l'Union européenne et bien évidemment la partie nord de ce continent qui est l'Afrique. Donc aujourd'hui, est-ce que vous y voyez une opportunité d'avoir un partenaire comme la Tunisie dans la SLECAF?
En tout cas, moi j'ai une bonne complémentarité et je rêve de voir la Tunisie devenir le tremplin entre l'Union européenne et le continent africain dans beaucoup des domaines. Et c'est clair que sur le continent africain, on est les premiers d'être contents si les flux commerciaux qui sont très très basses encore au niveau continental puissent être augmentés et évidemment à un moment donné aussi suivi par plus d'investisseurs, investissements. C'est pour ça aussi qu'on soutient aussi à travers un projet le développement de la stratégie tunisienne vers la valorisation des offres de SLECAF. Et j'espère que cette stratégie nationale sera très bien bientôt finalisée. Et on soutient aussi du côté de l'Union africaine cette vision. Puisqu'on vraiment la voit comme complémentarité très utile entre nos bilatérales avec un pays comme la Tunisie et les opportunités qu'on peut offrir à travers un pays tremplin vers le continent africain.
Alors pour terminer, deux questions qui sont revenues souvent d'ailleurs depuis ce matin avec nos différents invités. Alors vous me voyez peut-être venir, deux mots, je vais les poser en un mot chacune. Quota, mobilité. justement pour libérer, on a parlé énormément, on en parle ces derniers temps, on en parle tout le temps, de libérer les exportations, de libérer ces échanges, ou au moins de réviser les quotas donc, dans certains domaines, y compris dans l'agroalimentaire, comme l'huile d'olive, etc. Donc ça c'est une. Et la question de mobilité aujourd'hui, comme ce matin, le président de GetIT, il parlait de la mobilité des ingénieurs. Il a dit si on pouvait, pour certaines catégories, comme les ingénieurs, suspendre, enlever le visa, et donc ça permettrait une meilleure mobilité et une meilleure collaboration, parce qu'aujourd'hui il y a énormément d'entreprises qui collaborent étroitement au quotidien, qui travaillent pour l'Europe ou avec l'Europe. Donc mobilité et quota.
Très bien, deux questions importantes, deux grandes questions. Sur les quotas, évidemment, c'est le moment de penser plus de libéralisation et plus de compétition des deux côtés. Il y a toujours l'offre et l'intérêt de l'Union européenne sur la table de revoir nos accords commerciaux qui datent déjà depuis 1995, donc qui sont plus à la hauteur, notamment dans le domaine des services et notamment dans le domaine de l'agriculture. Donc ça c'est quelque chose où j'espère aussi bientôt qu'on a une offre des Tunisiens pour reprendre ces discussions. Et dans ce contexte, évidemment, le système de quotas qui, comme chaque règlement, est un peu contraignant des deux côtés, c'est pas trop satisfaisant, notamment pour l'huile qui, normalement, pour la Tunisie, doit être très compétitif. Mais en tout cas, c'est une approche qui doit quand même aboutir à une révision plus généralement des flux commerciaux des deux côtés. Moi, je reviens à l'investissement. Moi, j'aurais aussi l'intérêt, en même temps, aussi de revoir une meilleure fonte d'investissement la présence des investisseurs européens en Tunisie et vice-versa, aussi des Tunisiens évidemment en Europe. Et ça va en pair avec votre deuxième question, mobilité. Parce que souvent à travers un tel accord où ça permet de d'ouvrir, notamment dans des secteurs de services par exemple, ou des secteurs de certaines professions, une facilitation de visa. Mais aussi ça nous offrerait en parallèle d'accroître ce qu'on appelle les talent partnerships. On prend les talents, on les forme, ils sont formés ici, ils peuvent travailler pour quelques années en Europe, ils peuvent revenir, donc avoir une mobilité circulaire. Et c'est ça qui se prête tellement, parce que s'il y a des opportunités ici, il n'y a aucune raison pour des gens de volontairement doivent partir uniquement pour trouver des alternatives. De l'autre côté, je vois aussi beaucoup, soit la diaspora tunisienne aussi, d'avoir un intérêt de revenir de temps en temps s'ils ont la possibilité de repartir vers l'Europe, inversement aussi des Européens de venir ici et de repartir. Donc, pour résumer, invitation ouverte aussi de valoriser notre partenariat à travers une refonte de nos accords commerciaux ou investissements, dans un mode à définir, mais on est tout à fait prêt de le faire. On voit l'intérêt. Et à travers cela aussi, de revoir, notamment dans certaines des professions, des services et autres, une facilitation de visa et de travailler davantage sur la mobilité circulaire dans certains des offres de formation et de profession.
Merci à vous, Marcus Cornaro, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, d'avoir accepté notre invitation ce matin et répondu à toutes ces questions. Il y a pas mal d'annonces importantes, donc j'invite nos auditeurs, notamment que nous vous parlons de tous les conversations que vous pouvez voir sur notre Facebook ou sur notre site www.radioexpress.com ou sur la chaîne YouTube. Merci, Excellence, et encore une fois, bonne fête.
Très bien, faites-en ensemble. En tout cas, merci beaucoup déjà pour ça. Monsieur Wassim, toujours un plaisir d'être avec vous, d'être avec Express FM. Et de vos écouteurs. Merci. Bonne journée à tout le monde.
Merci beaucoup. نذكر اليوم وغدوة برنامج إكسبريسو باش يكون هوني مباشر من مدينة الثقافة بمناسبة أيام الاتحاد الأوروبي. أيام أوروبا هو الكل, هو لا جورني دو لوروب, نهار 9 ماي رمز للسلام, ولكن سنة الاحتفالات كانت على عديد الأيام. وإكسبريسو باش ترافقهم برنامج إكسبريسو غدوة, يكون هوني سمعتوا عديد الضيوف كانوا معنا اليوم الصباح. غدوة باش نرجعوا على قطاع السياحة مع برنامج تونس وجهتنا, باش نحكيوا على الثقافة مع تفنن, باش نحكي وعلى الديزاين مع تشيز ديزاين ويك مساعده كيف من قبل الاتحاد الاوروبي وفونداسيون تونيزي كيف باش بور ديفلوبمون باش يكون معنا سيد حسن زرقوني باش يحكيوا على ارقام موبيليتي برشا ارقام معناتها تتم عدد قطاعات وباش نركزوا على الاستثمارات زاده في ارقام حصريه مع رئيس تي تونيزي انفستمنت اوثوريتي وقطاعات اخرى باش كنا لونو غدو في برنامجكم اكسبريسو عندنا برنامج سمارت كونسو برنامج ايكوماج برمجه كامله هوني مباشر من مدينه الثقافه اقعدوا معنا على اكسبريس اف ام نرجع الكلمه لاستوديوهاتنا المركزيه في كارير مع زميلي فارس بن سويلح شكرا رانيا اسامه ادم ناصر الياس هوني طارق كل الزملاء وسبع بحييكم نهاركم مبروك ربي يحمي بلادنا ملتقانا غدوه ان شاء الله.